Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on jase et on discute des enjeux importants pour la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler généalogie. Eh oui, un sujet qui vous a sûrement déjà passé par la tête de dire « Ah, j'aimerais bien ça, connaître mes ancêtres ». On va parler de ça aujourd'hui. Et avec moi pour en parler, j'ai Frédéric Fradette, qui est archiviste à la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine.
Bonjour. Bonjour
Frédéric. Et Huguette Labrec, qui est bénévole à la Société d'histoire et de généalogie et aussi généalogiste de filiation agréée.
Bonjour.
Bonjour. Ça va bien?
Oui.
Oui. Bon, là, on va commencer par le début. Donc, ici, on a la chance ou le privilège d'avoir une Société d'histoire et de généalogie. Comment c'est né tout ça et pourquoi on a besoin collectivement d'avoir ce genre de société-là, Frédéric?
En fait, chaque territoire a sa Société d'histoire. Parce qu'on veut vraiment créer un espace où regrouper toutes les archives d'un même territoire, d'une même MRC. Donc ici, c'est la MRC de Maria Chapdelaine qu'on couvre. Puis la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, c'est née en 1988. Okay. C'est au moment du 60e anniversaire de fondation de la ville de Dolbeau qu'un groupe de bénévoles se sont dit « Nous, on n'a pas de Société d'histoire ici, il y en a une à Saguenay. Pourquoi on n'en créerait pas une ici? » Donc, au début, c'était vraiment seulement la Société de généalogie de Dolbeau.
Okay.
Donc, c'était plus petit, ça couvrait un petit territoire. Finalement, on a eu un agrément en 1993 de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Puis là, on est devenu vraiment la Société d'histoire et de généalogie de la MRC de Maria Chapdelaine.
Okay. Et votre rôle, c'est de ramasser toutes les archives, ce que les gens possèdent, de comprendre en fait l'histoire locale, là.
Notre mission à la Société d'histoire, c'est d'acquérir, de traiter et de conserver adéquatement les documents d'archives de la MRC de Maria Chapdelaine pour mettre en valeur l'héritage historique et généalogique de notre territoire.
Donc, c'est bien dit.
C'est notre mission, être ici justement.
D'accord.
Donc, les gens, ça peut être autant des individus, des familles, des organismes, des entreprises qui peuvent venir porter leurs archives, qui parfois prennent beaucoup de place dans un lieu ou qui sont plutôt répartis dans plusieurs maisons pour ce qui est le cas des familles. Donc, c'est vraiment de rapatrier tout ça dans un seul endroit, puis de les protéger adéquatement. Donc, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de poussière, d'insectes, de dégâts d'eau ou de feu qui peuvent endommager les archives. Vraiment, chez nous, à la Société d'histoire, on a une voûte qui les protège.
OK. Puis c'est à quel moment qu'on doit aller vous porter ça? Tu sais, dans le sens, des fois, j'imagine que les gens attendent « Ah, oh, là, mon grand-père est décédé, il y a ça, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? » Ou on peut y aller n'importe quand à mesure qu'on en a chez nous, puis on dit « Ah, oh, ben, peut-être que ça pourrait être intéressant. » Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse pas à la Société d'histoire?
Mais en fait, le mieux, c'est de tout nous apporter. Nous, okay. On fait un tri après ça. Le moment pour nous les apporter, en fait, il y a des archives qui se créent maintenant. Okay. Donc, c'est pas seulement des choses anciennes, c'est des choses récentes aussi. C'est ça, quand un proche décède, c'est sûr que c'est un bon moment pour venir nous porter des archives au lieu de les jeter ou, bon, de dire qu'il les veut dans la famille puis que quelqu'un les conserve de manière inadéquate ou que ça se perde finalement avec le temps. C'est mieux de venir nous les porter. Pour les familles, c'est une façon d'avoir toutes les choses dans un même endroit, de savoir où les trouver. Puis ça va être la même chose pour les descendants aussi. Ils vont pouvoir.
Parce que ça reste accessible. La famille vient vous les porter, mais a toujours le loisir de revenir en disant « J'aimerais ça regarder tel ou tel document que j'avais ».
Oui, bien c'est sûr que nous, on ne permet pas de reprendre les archives, ouais. Que la famille les reprenne parce qu'on veut vraiment les conserver. On a un contrat de donation qu'on fait signer, mais les gens peuvent venir les consulter n'importe quand, puis on peut faire des numérisations, on a des appareils de haute qualité là, pour la numérisation, autant des photos, des diapositives, des négatifs, de l'audiovisuel, on peut tout numériser, puis les gens peuvent venir les consulter à la Société d'histoire, les originaux, puis les reproduire à la maison avec des copies.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on filme tout le temps, on enregistre, ça laisse beaucoup de traces, mais à une autre époque, c'était pas pareil. Là. Moi, des photos de mes parents jeunes, j'en ai deux, là, parce qu'il n'y en avait pas des tonnes. Donc, c'est important de garder ça aussi là, pour la collectivité.
Ben toi, tu en as deux, des photographies de tes parents à la maison, mais peut-être que tes oncles, tes tantes en ont aussi de leur côté, puis toi, t'es pas au courant de ça. Donc, eux peuvent venir les porter à la Société d'histoire. Une fois qu'un fonds d'archives est ouvert, c'est tous les membres de la famille qui peuvent venir.
Ah, OK, ça appartient comme à la famille.
Oui, souvent, on ouvre un fonds d'archives au nom de la famille.
Okay.
Donc, tous les petits-enfants, les enfants peuvent venir porter des choses. Puis, il n'y a pas un contrat à signer à chaque fois, c'est des fiches d'ajout, c'est très simple là, pour faire des donations supplémentaires.
OK. Fait que là, moi, je trouve des choses chez nous, je pense que ça peut être intéressant. Je fais juste me présenter à la société, on prend rendez-vous, puis c'est simple comme ça.
Oui, bien le mieux, c'est de prendre rendez-vous pour, d'un, s'assurer que moi, je sois disponible à ce moment-là pour remplir le contrat, tout ça, puis aussi pour prendre le temps, vous, de votre côté. Ça prend quand même 15-20 minutes au moins là, pour se parler des clauses du contrat, puis signer tout ça, puis parler un petit peu des archives d'où ça provient. On fait un petit historique là, pour savoir c'est de quelle famille, de quel organisme, savoir en quelle année l'organisme a été fondé, d'où ça vient. On veut un petit historique. Donc, on prend le temps de se parler. On prend rendez-vous ensemble, puis c'est pas compliqué. Là.
OK. Par curiosité, toi, tu es archiviste, donc tu as étudié pour faire ça. Donc, ça doit être un grand bonheur de pouvoir travailler dans ton domaine, en fait, là. Est-ce que tu es native du coin?
Oui, moi, je suis native de Dolbeau.
OK.
Puis, je suis allée étudier, en fait, au baccalauréat en langue française et rédaction professionnelle à l'Université Laval, donc à Québec. Puis après ça, j'ai fait un certificat en archivistique à distance à l'Université Laval pendant que je travaillais à la Société d'Histoire.
Ah, OK. Très spécialisée.
Oui, moi, j'ai commencé en 2015 à la Société d'Histoire. Au début, c'était mon stage de mon baccalauréat que je faisais.
Wow.
Puis finalement, j'ai été engagée, puis je continue depuis. Puis j'ai fait mon certificat en archivistique pour me spécialiser.
C'est bien le fun. Huguette, vous, qu'est-ce qui vous a amené à la généalogie? Là, ça fait longtemps là, que vous faites ça. Vous me parliez avant l'émission, c'est presque 40 ans.
Oui. Je sais pas, c'est un intérêt. C'est pas dans une famille, il y en a un ou deux qui ont intérêt à ça. C'est jamais beaucoup, là, tu sais.
Ouais.
Mais moi, je pense que j'étais attirée par ça, je sais pas pourquoi. Ma grand-mère, elle aimait raconter des choses.
Okay.
Puis moi, je pense que c'est elle qui m'a donné le goût. Puis déjà, quand j'étais à l'école normale, mes grands-parents, Robert, ils demeuraient à Dolbeau à ce moment-là, puis on allait les voir de temps en temps. Puis là, j'avais demandé des questions à mon grand-père, d'où il venait, puis j'avais posé des questions, puis j'avais marqué les réponses. Mais là, ma jeunesse a fait que je l'ai perdu le papier, tu sais. Quand t'es dans une famille de 13 enfants, là, puis d'un plus vieil, ben, il y a des petits papiers qui se perdent. Ça fait que je pense que c'est de là. Puis là, en 84, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à vouloir savoir mon... Ah oui, je sais. Quand j'arrivais à l'école normale, il y avait les gros livres Drouin. Puis moi, j'ai ouvert ça. J'allais voir. Puis là, j'ai vu que c'était les ancêtres. Là, il y avait un Labrec Pierre, puis il y avait un Labrec Jean. Hein? J'ai compris qu'on pouvait aller chercher.
Okay.
Fait qu'à partir de ça, quand je suis arrivée chez nous le soir, j'étais tout contente. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, notre ancêtre, il s'appelait Pierre. J'ai choisi Pierre, moi, parce que mon grand-père s'appelait Pierre. Fait que j'ai dit, notre ancêtre s'appelait Pierre Labrec, puis il était marin. Ben, j'étais toute contente de ma découverte, mais ça a dû rester là. Après ça, tu sais, je me suis mariée, les enfants. Puis là, en 84, j'ai commencé à vouloir en savoir plus. Puis je me suis abonnée à ce moment-là. À Chicoutimi, il y avait peut-être une société de généalogie, mais je ne m'en rappelle pas vraiment. Là, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait une société de généalogie à Québec. J'ai pris mon abonnement avec la société de généalogie de Québec. Puis c'est là que j'ai commencé mes premières recherches. Puis en commençant mes premières recherches, Bien, là, je cherchais sur l'ancêtre, là, tu sais.
On commence tout le temps par ça.
Oui, j'avais un intérêt pour ça. Alors là, j'ai dit, bon, j'avais commencé. Mais là, à ce moment-là, à Québec, j'allais aux archives, mais j'allais aussi à la Société de généalogie. Mais aux archives, j'avais vu qu'il y avait une banque qui s'appelait Parchemin. Peut-être en questionnant, là, je ne sais pas comment j'ai tout découvert ça, mais en questionnant, j'ai vu qu'il y avait une banque qui s'appelait Parchemin. Puis dans la banque de parchemin, on pouvait trouver tous les actes notariés de nos ancêtres. C'est-tu assez fantastique? Ça fait que là, moi, j'ai commencé à sortir des actes notariés, mais là, il faut apprendre à les lire, là, les actes notariés, ça, c'est pas facile. Mais j'ai suivi quelques cours aussi, mais je ne suis pas capable de dire dans le temps où est-ce que je les ai suivis, mais Quand j'ai commencé à lire les actes notariés de 1660, admettons, là, je ne sais pas si j'avais entendu ou de par moi-même, mais j'avais ma méthode. Tu sais, je chiffrais chaque ligne, puis là, j'écrivais ce que je trouvais sur la ligne. Puis c'est de même, ça s'appelle la paléographie, puis c'est de même en réalité qu'il faut faire. Fait que là, j'avais réussi à déchiffrer, on dit déchiffrer quelques actes notariés. Puis là, ben, j'ai écrit un peu ce que j'avais sur l'ancêtre Pierre Labret. Mais quand on va dans une société de généalogie, on nous fait signer un code d'éthique pour dire qu'on n'a pas le droit de s'approprier des choses que d'autres ont écrites puis dire que c'est nous autres qui l'ont écrit. Il y a des petites choses. Puis après ça, il disait aussi, à Québec, il disait, ben si, avant de commencer à faire un travail important sur votre ancêtre, allez voir s'il y a quelqu'un qui a fait un travail.
Oui, ça n'a pas déjà été fait par quelqu'un d'autre.
Ouais. J'aurais recommencé un travail qui est déjà fait. Puis là, mais moi, j'avais envoyé mes 3-4 feuilles que j'avais réussi à trouver sur mon ancêtre, puis je les avais envoyées à Québec parce qu'ils disaient de donner ce qu'on découvrait. Fait que là, j'ai dit, je vais fouiller s'il y en a d'autres, la brèque, aussi, à un moment donné. Puis là, j'y allais rien que quasiment durant les vacances. Là. J'y allais pas souvent, là.
OK.
En tout cas, un été, j'arrive durant les vacances, puis là, je vais voir s'il y avait un autre qui avait écrit sur les labrecs. C'était mes 4 petites feuilles que moi, j'avais écrites.
Wow!
Fait que là, j'ai dit, ben c'est moi qui vais le faire. Et ça a donné ça.
Pierre Labrec en Nouvelle-France, 1657.
Vers 1657, parce qu'on n'était pas capable de savoir vraiment. Alors là, à ce moment-là, j'ai été en chercher encore plus à notarier. Puis à ce moment-là, en tout cas, je me débrouillais comme je pouvais. Puis, j'avais une de mes belles-sœurs qui était bonne là-dedans. Elle était meilleure que moi, elle, pour réussir à déchiffrer. Là. Elle aimait ça aussi, elle, là. Puis, mais je me faisais corriger à ce moment-là, là, parce que pour être sûre que je ne me trompe pas, je me faisais corriger par le frère Gérard Leville, qui, lui, il écrivait la revue Ancêtre, tu sais, qu'on a à la Société de Delbeau. C'est un père de Saint-Onge-de-Beaupré.
Okay.
Puis lui, il aimait ça, lui faire de la généalogie. Fait que, alors, j'ai envoyé mes documents notariés que j'avais déchiffrés, puis lui me corrigeait quand, mettons, je m'étais trompée. Comme ça que ça a commencé, là, moi, que j'ai commencé vraiment là, à faire quelque chose.
Là, vous montez tout ça, puis comment ça devient un livre? Parce que là, on a un livre, là. C'est vous qui l'avez fait publier?
Oui, oui.
Oui.
On dirait que moi, là, j'ai... Je me reconnais pas comme... on va dire, je suis une recherchiste.
OK. Hein?
Pour savoir écrire... mais j'écris, tu sais, j'ai pas peur d'écrire. Je pense que je suis une fille un peu audacieuse, tu sais, j'ai pas peur. J'ai pas peur de me tromper.
Ouais.
C'est ça. Alors, si je décide que j'ai fait le livre, je décide que je le fais de telle manière, puis je le fais. C'est ça.
OK.
C'est pas plus compliqué que ça pour moi.
Puis là, ça, quand vous faites ça, la Société d'histoire et de généalogie de Marie-Chapdelaine n'existe pas encore. Là.
Non. C'est-à-dire que oui, quand j'ai fait ça, mais quand j'ai commencé, je crois pas qu'elle existait encore, parce que moi, c'était en 84 que j'ai commencé. Puis là, en 89, eux autres, quand ils ont fait la Société d'histoire, ben là, je sais pas comment les circonstances sont venues, ils se sont dit, on va faire aussi une Société de généalogie. Ils ont su que moi, je faisais de la généalogie. Je ne sais pas comment ils l'ont su.
Puis ils vous ont approché.
Ils m'ont approché avec une autre personne qui s'appelait Rita Goulet à ce moment-là, puis qui elle a beaucoup de généalogie de fait aussi. Okay. Puis on était sur le comité avec monsieur... lui qui est monsieur Perron, monsieur Albert Perron.
Ah, ouais.
Monsieur Albert Perron qui aimait tellement l'histoire, puis il aimait la généalogie. Monsieur Perron, lui... quand il parlait, là, les yeux brillaient et tout ça, là, on avait le goût de l'écouter. Vraiment, ben oui. Là, lui, oui, c'était un homme qui aimait découvrir aussi. Mais avant de faire ça, là, j'ai quand même commencé, comme les autres, à faire ma généalogie, à faire la lignée directe qu'on appelle, ben, à faire l'arbre généalogique. Quand on commence, souvent, on s'embarque là-dedans. On fait l'arbre, c'est ça qu'on appelle l'arbre généalogique.
Pour le montrer.
Ça, c'est la roue de pain.
Oui, ou la roue de pain.
La roue de pain.
Tandis que la lignée directe, c'est ça.
C'est comme là, on y va plus.
Oui, c'est comme, admettons, ouais, comme je peux, ici, c'était Thomas-Louis Labrille. Bien là, j'ai fait en descendant, mais on pourrait la faire en montant. Thomas-Louis Laprise, son père c'était Zaphirin, son père à lui c'est Ferdinand, ainsi de suite jusqu'au premier Laprise. Ça, on appelle ça une lignée directe.
OK.
Tandis que ça, on appelle la queue de pain ou l'arbre généalogique, c'est ça.
Plus complet, ça.
Oui,
plus
ça.
Complexe à faire, j'imagine.
Oui, plus long.
Mais ça va être précieux d'avoir des gens comme Huguette pour la société.
Oui, bien, Huguette fait partie de notre comité de généalogie à la Société d'histoire. Vous êtes quoi, 6 personnes en ce moment dans le comité?
Oui, oui.
Donc, eux organisent des ateliers de généalogie tous les mardis après-midi.
OK. Ça, là, parce que je te coupe à mesure, j'ai plein de questions, mais l'atelier de généalogie, c'est que j'arrive, moi, puis vous m'aidez à faire ma généalogie, c'est ce que c'est
ça? Oui, c'est de l'accompagnement. On prend rendez-vous aussi, si possible. On peut être 2-3 personnes à la fois, 2-3 chercheurs à la fois, avec un bénévole là, qui va les aider, là, finalement, à consulter les sites web.
Oui. Alors, on va les diriger. C'est aujourd'hui, là, c'est rendu beaucoup plus facile de faire de la généalogie qu'autrefois. Moi, quand je faisais de la généalogie, pour commencer, je me suis déplacée à Québec.
Oui, les archives nationales.
Après ça, fallait que je veuille, parce que je partais de bonne heure le matin, puis je partais toute seule. Il fallait que j'apprenne à conduire en ville. Après ça, là, j'ai appris qu'il y en avait une à Chicoutimi. Fait que après ça, j'allais à Chicoutimi au lieu d'aller à Québec, c'était moins loin, là.
Mais c'était tout dans des papiers. Aujourd'hui,
ouais, c'était des répertoires. C'était des répertoires on consultait. Comme, cette fois-là, j'étais à Québec. J'étais à Québec, puis moi, ma grand-mère est venue au monde aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'était des gens des États-Unis, là.
Ouais.
C'est parce que dans ce temps-là, les parents allaient travailler aux États-Unis, puis ils restaient là quelques années, après ça, ils revenaient.
Ouais.
Puis elle, ça a donné qu'elle est venue au monde aux États-Unis. Fait que, mais je cherchais le mariage de ses parents à elle, je ne les trouvais pas. Puis j'étais à Québec, puis là, il y avait une madame qui m'a dit, « Ben, gars, va voir tel... » En tout cas, elle m'avait conseillé. Les autres, il y avait plus de livres, de répertoires. On appelle ça des répertoires de mariage.
OK.
Puis les autres, il y en avait sur les États-Unis. Elle dit, « Va chercher là, tu vas probablement trouver. » Puis effectivement, je l'ai trouvé. Il s'était marié dans le New Hampshire, me semble, si je me trompe pas, ou Connecticut, là. Ça s'appelait... Saint John Baptiste, là tu vois, ma mémoire n'est pas bonne. En tout cas, c'était aux États-Unis. Il s'était marié aux États-Unis. Fait que j'ai pu le trouver grâce à elle. Ça, tu sais. Mais en général, quand on se marie dans une région, puis tout ça, bien, admettons comme moi, mon père, lui, il vient de Bellechasse. Alors, si je voulais trouver le mariage de mon grand-père, mon arrière-grand-père, j'allais dans les répertoires qui contiennent les mariages de Bellechasse.
OK. Puis aujourd'hui, j'imagine que tout ça doit être informatisé. C'est tout ça qui rend ça plus facile ou c'est parce qu'on se marie moins, on a moins d'enfants ou...
Aujourd'hui, c'est parce que sur Internet, il y a tout.
Ouais.
Il y a presque tout. Et parfois, comme moi, je paye sur des sites que je paye pour avoir des informations.
Des informations, OK.
Mais des fois, il y a des sites qui sont gratuits aussi. Et alors, ordinairement, admettons que vous mettez le nom de votre grand-père. C'est plus facile parce que votre père ne sera peut-être pas là. Mais votre grand-père, sur un site Internet où il y a de la généalogie, bien, probablement, vous allez être capable de le remonter dans une journée. Là.
OK.
Pas toujours, mais souvent.
Mais ça doit être plus efficace quand on fait affaire avec des gens, des spécialistes. Tu sais, quand on ne connaît pas ça.
Ce qu'on trouve sur Internet, on a toujours à aller le vérifier, par exemple, dans une société. Parce que dans la société, on va avoir les papiers qui sont de Ancestry, qui sont pas ça que je devrais dire, les répertoires de mariage avant 1940.
OK.
On peut les lire aux archives quand on va à notre société de généalogie. On peut les lire. Tandis que quand tu es sur Internet, tu peux les lire aussi, mais il faut que tu payes.
Ouais, c'est ça. Ça a l'avantage en plus, on a un accompagnement, puis c'est plus personnalisé.
Mais quelqu'un qui veut faire sa généalogie, puis qui ne sait pas où aller, où se guider, bien, c'est bien qu'ils viennent à une société. Et là, on va dire, bien, gars, vous pouvez aller consulter tel site, tel site, tel site. Puis si, admettons que vous voulez venir confirmer, bien là, ils viennent à la société. Puis là, à la société, ils vont trouver les vrais papiers officiels qui vont leur permettre là, de vraiment là, confirmer que c'est vrai. Parce que c'est une science, la généalogie. Ouais. On n'écrit pas n'importe quoi, là.
Puis c'est quoi les plus grands défis pour, tu sais, les problématiques qui reviennent plus souvent, là, je sais pas, des gens que vous n'êtes pas capable de retrouver quand il y a des... C'est quoi qui cause ça, en général?
Les défis, c'est que des fois, on peut être mis sur une fausse piste.
Okay.
Parce que un jour, j'allais dans des congrès, des fois, de généalogie. J'aimais ça, tu sais. Puis là, un matin, j'étais allée déjeuner, puis il y avait une madame à côté de moi. J'ai dit les registres. J'ai dit, ça voulait dire, avec un registre, tu ne tombes pas. Elle a dit non, madame. Elle a dit, il y a des erreurs dans les registres. Mm-hmm. Mais moi, je n'avais pas assez fait pour comprendre. Là, je comprends aujourd'hui. Parce que c'est pour être que celui qui écrit les registres, là, au lieu de marquer que moi, que la mère s'appelle Huguette Labrec, admettons, il marque. Elle s'appelle Huguette Bouchard.
Ouais.
Parce que la Moraine, c'est une Bouchard. Puis,
c'est trompé. C'est les curés.
Alors, ça peut arriver. Alors, c'est ça que c'est des choses comme ça qui, des fois, occasionnent qu'on va chercher sur une fausse piste.
OK.
On va dire, c'est les choses. Là. Puis, aussi, il faut savoir, il faut questionner nos ancêtres. Il faut questionner les parents, les oncles. Il faut les questionner pour savoir d'où ils partaient.
Ouais.
Pour savoir, parce que ça, c'est important, parce que là, tu peux chercher n'importe où, là. Alors, il faut que tu saches d'où il part, puis en sachant d'où il part, bien là, ça aide à faire la recherche.
Moi, dans ma belle famille, quand ils ont fait ça, ils sont arrivés à un trou, à un moment donné, puis ils n'ont pas trouvé pendant longtemps, puis à un moment donné, ils ont trouvé, puis c'est parce que la personne était d'origine Atikamek, donc des Premières Nations, puis je pense qu'à l'époque, il y avait moins de tu sais, il n'y avait pas de baptistère, ou... est-ce que ça aussi, ça peut être une problématique qui arrive couramment?
Ben ça va arriver peut-être plus avec les Amérindiens, là.
Ouais.
Puis moi, j'ai pas tellement exploré de ce côté-là. Okay. Mais puis souvent, des fois, dans les Amérindiens, ils mettaient souvent juste le nom de la mère. Ils ne donnaient pas le nom de famille. Ils leur donnaient pas un nom de famille.
Okay.
Alors, des fois aussi, ça fait plus embêtant. À retrouver à ce moment-là. Là. Mais en général, pour les gens comme nous autres, c'est plus facile.
Ouais.
Oui.
On est capable de remonter jusqu'où comme ça, là?
Jusqu'en 1600, jusqu'au début de la
jusqu'au début de la colonisation.
De la colonisation.
Ça, c'est relativement facile de faire ça.
Oui. Puis maintenant aussi, avant, la majorité, on vient de la France, mais maintenant, en France, ils ont commencé à classer les archives, eux autres aussi, parce que c'était plus difficile quand on arrivait en France. Puis maintenant, on est capable de remonter encore plus loin en France. Là. On est capable de remonter à 1500. Là. Mais c'est sûr que les registres, ils ont commencé à être écrits. Là. Je ne dirai pas de date parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Mais c'est, au début, là, en France, c'était les nobles qui avaient les registres. Les gens ordinaires n'avaient pas. Je ne mettrai pas de date parce que j'aurais dû la reviser avant de venir. Là.
Tandis qu'ici, on a toujours gardé les dates pour tout le monde.
Oui, oui, oui. Mais là-bas, on monte jusqu'en 1500, sûrement 1530, peut-être même plus un peu. Là. Mais je sais qu'il y en a un, à un moment donné, il y a un roi qui a décidé que là, on enregistrait les baptêmes et les mariages et les sépultures. En tout cas, ils ont commencé à enregistrer. Là. C'est... La lettre précise, je suis capable de dire, mais c'est en haut de 1500, en tout cas.
OK.
Avant 1500, on va dire ça.
Avant 1500.
Ouais.
Ça fait beaucoup, beaucoup de recherches. Puis comme vous dites, il y a beaucoup de noms, beaucoup de dates. Donc, les gens ont pu se tromper, mais même vous, des fois, en cherchant, il peut y avoir
méticuleux. Ouais, pour ne pas se tromper, souvent, là, c'est faut partir toujours comme... de quelqu'un. Moi, mettons ma grand-mère, je partais de ma grand-mère, son père, sa mère. Bon, ça fait que là, je cherche le mariage de son père, sa mère. Moi, je n'étais pas capable de monter ma lignée là, des bois verts. Là.
Okay.
Ben, j'ai été capable parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'un enfant qui était baptisé, puis c'était ses grands-parents bois verts qui étaient baptisés. Alors là, j'ai vu que c'était un frère à Mamie Robert. Là. Alors là, c'était un frère à Mamie Robert qui se faisait baptiser, puis c'était le nom de ses grands-parents. C'est comme ça que moi, même avant de trouver le mariage des parents à ma grand-mère, avant de le trouver, j'ai été capable de remonter la lignée parce que dans le registre de baptême, c'était marqué grands-parents de Boisvert. Là. Alors là, j'ai été capable de remonter comme ça.
C'est assez précis.
Oui, là, j'avais comme une difficulté, mais la difficulté, je l'ai contournée de cette manière-là.
Et Fait que c'était pas aussi précis qu'à cette heure, tu sais. Je veux dire, aujourd'hui, j'imagine les nouveaux barrages, les nouvelles naissances, mais à l'époque, c'était écrit à la main, donc...
Ah non, mais c'est quand même assez précis.
Oui?
C'est juste la difficulté que c'est plus difficile à lire. Mais c'était...
Très précis.
Très précis aussi, oui. Les seules erreurs, comme je dis tantôt, là, comme on disait tantôt, c'est que des fois, on a mis le mauvais nom, là.
Puis à l'époque, pourquoi on gardait ça, ces registres-là? T'sais, on a commencé à faire ça. T'sais, aujourd'hui, on comprend, on veut connaître nos ancêtres, mais quand on commence à faire ça, ces registres-là, c'est pourquoi qu'on tient ça?
Bien, première des choses, le baptême était très important à l'époque.
Ouais.
Donc, baptiser son enfant, ça se faisait très, très tôt. Là. En fait, la journée même, si possible.
Ouais.
Donc, la religion, c'est très important aussi. Tout ce qui était autour de la religion. Donc, pourquoi ils ont fait des registres exactement? Bien, je pense que... Pour garder trace de tout à l'époque.
Ouais.
Là,
mais moi, je pense aussi qu'on était une nouvelle nation, là, la Nouvelle-France. Là,
ouais.
Puis je pense qu'ils ont trouvé ça important. Puis eux autres, il fallait qu'ils fassent... En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle.
Okay? Parfait, on l'apprend.
Fallait qu'ils fassent valoir auprès de la France qu'on était un pays qui se développait, un pays qui grandissait puis qui avait besoin des fois d'eux autres là, pour s'améliorer puis tout ça. Alors, s'ils prenaient tous les registres de chaque naissance, puis c'était bien écrit, bien noté, parce que c'est pas tous les pays. Nous autres, on est vraiment un pays, on dirait, favorisé de ce côté-là, qu'on a tout pris, nos archives, tous les baptêmes, toutes les sépultures ont été pris. Fait que, puis moi, je dis qu'à un... Il y a peut-être ça qui est en jeu, là, pour démontrer ouais. qu'on est un nouveau pays, puis qu'on va avoir besoin d'aide, puis qu'on va avoir besoin de soutien, mais qu'on est là.
On est là, on existe. Puis là, vous parlez beaucoup, tu sais, les registres étaient tenus, entre autres, par les paroisses, donc par l'Église. Est-ce que c'est plus problématique quand on n'est pas dans la religion catholique? Moi, c'est une question là, je me pose, tu sais, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de vagues d'immigration, les protestants, les juifs, il y a plein de gens qui sont venus aussi en moins grand nombre, mais est-ce que c'est plus difficile quand on tombe dans d'autres types de communautés religieuses?
Il y a des registres aussi pour les protestants,
pour
d'églises protestantes, là, il y en a aussi. C'est semblable, là.
C'est
la même chose. Ouais. C'est facile à trouver aussi, en général.
Mais des fois, c'est plus difficile un petit peu, à cause que des fois, les autres, ils mettaient un mariage, ils ne mettaient pas le nom des parents, là.
OK.
Alors ça, c'est des fois, ça devient problématique, là. Alors, puis je ne sais pas, le baptême, si eux autres, ils étaient baptisés jeunes.
Ah.
C'est ça, là. J'ai pas pu comparer.
Ouais. OK. Ouais. Excusez-moi, je pose des questions.
Non, mais on n'a pas tout exploré, nous autres non plus, là, mais...
Je vous arrête une minute, on prend une petite pause et on revient immédiatement après la pause pour continuer cette fantastique discussion. À tout de suite!
Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais... J'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher!
On dit « don't feed the lady, Martine! »
Mais j'ai sur mon heure de lunch.
Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le Baby Bleuet.
La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de chenoute de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.
La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine.
Échangeur sur code et on continue notre succulente discussion sur la généalogie. On en a parlé, on a parlé de la Société d'histoire et de généalogie, mais quel service vous offrez à la population? Parce que peut-être qu'au-delà de garder nos archives, vous êtes capable de proposer d'autres services?
Mais en fait, pour les fonds d'archives, c'est gratuit. On fait la conservation et le traitement des archives gratuitement. Ensuite, on a aussi une revue offerte à nos membres, la revue La Souvenance, qu'on produit 3 fois par année. Donc, on offre à nos membres, on l'offre.
Là, oui. Je t'arrête. Tu dis à nos membres, donc on peut devenir membre de la Société d'histoire.
Oui. Pour.
On ne l'est pas automatiquement parce qu'on habite le territoire de Maréchal-Dolène.
Non, bien, en fait, être membre de la Société d'histoire, c'est une façon de soutenir nos activités parce qu'on est un organisme à but non lucratif.
Ça vous aide à fonctionner.
Oui. C'est 20 $ par année pour être membre. Puis, on en a quand même beaucoup. En fait, là, c'est des gens qui nous soutiennent chaque année. Puis, en même temps, il y a beaucoup de services qu'on offre à nos membres. De un, la consultation des archives, il faut être membre pour le faire. Ou sinon, il y a des petits frais là, pour venir une journée pour faire de la recherche. Sinon, on a un site web, histoiregenealogie.ca. Okay. C'est le site web de la Société d'histoire où on a numérisé... des dizaines et des dizaines, si c'est pas des centaines de journaux anciens là, du territoire ici, okay. Et qu'on a mis à disposition des gens là, sur notre site. Puis c'est dans la zone des membres, finalement. Okay. Même chose pour notre revue La Souvenance. Elle est distribuée papier dans les maisons là, pour nos membres. Puis on a aussi la version numérisée en ligne. Donc, ensuite, pour nos services, en fait, on a beaucoup de petits contrats avec des municipalités pour de la recherche, pour de l'organisation d'expositions, des activités spéciales. On a fait un petit peu de projets avec la télé du Haut-du-Lac notamment Portrait des familles, puis d'autres émissions aussi, Artisans de la terre, des choses comme ça. Donc, nous, on fait beaucoup de recherches. On est les gens qui faisons de la recherche historique là, sur des sujets.
Fait que n'importe qui peut vous appeler pour dire « Écoute, moi, j'aimerais besoin d'informations sur telle partie de l'histoire, telle famille, telle municipalité. » Puis là, vous vous occupez de faire la recherche pour eux.
Oui, bien, notamment quand les municipalités ont des centenaires ou des anniversaires de fondation, ça peut être intéressant de faire affaire avec
vous. Centenaire de j'imagine qu'ils ont fait affaire avec vous pour...
Pour celui-là spécifiquement, non, malheureusement. Ah, excusez. Mais on espère dans 25 ans au prochain que oui. Là.
Ah, ouais.
Mais c'est ça, en fait, c'est important de faire un projet avec la Société d'histoire pour ces événements importants-là. On peut trouver, pas seulement faire de la recherche, mais aussi textuelle, mais aussi de photographie. Puis on a de l'audiovisuel, on a vraiment beaucoup de choses. Puis maintenant, on a aussi, parlant d'audiovisuel, on a la voûte.tv maintenant, un autre site web.
OK.
En fait, c'est un partenariat différent. C'est en partenariat avec de nombreux centres d'archives partout au Québec, donc des agréés. On est 28 dans le projet actuellement. Puis, en fait, on a numérisé des milliers d'archives audiovisuelles, donc VHS, bobines.
C'est comme les archives de la télé, mettons, ça pourrait aller, ça pourrait... Ouais, OK.
Oui, mais ça, c'est plus récent. Il y en a, on a des années 40, là, du temps de la Seconde Guerre mondiale. On a vraiment des archives peut-être plus anciennes encore, là. Mais c'est ça, on a vraiment des choses intéressantes sur la voûte.tv. Puis c'est pas seulement la Société d'histoire qui contribue, bien qu'on a initié le projet. C'est en collaboration avec plusieurs centres d'archives, là, qui ont... qui avaient en fait beaucoup d'archives audiovisuelles qui dormaient dans leur centre d'archives parce que l'audiovisuel, on ne peut pas les consulter facilement.
Oui, puis ça devait se dégrader aussi avec le temps,
ça? Oui, ça se dégrade avec le temps, puis ça se dégrade encore si on ne fait rien, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, c'est illisible, sauf quand on a les machines appropriées pour le faire, puis nous, on a vraiment acquis
tout
beaucoup
matériel.
De matériel oui, pour les numériser.
OK.
Donc, on a ce projet-là aussi.
Wow.
Donc, les gens peuvent s'inscrire. C'est 19,99 par année pour être membre, pour avoir accès à l'ensemble des archives sur la voûte.tv. Donc, c'est quand même un très gros projet. Ça fait un an que ça existe.
Ouais. C'est le fun de pouvoir aussi revoir tout ça, revoir la ville. T'sais, moi, je ne suis pas si vieux que ça, mais je vois que Dalmou Mississini a beaucoup changé depuis ma naissance. Fait que c'est le fun aussi de pouvoir revoir visuellement là, ce qui se passait, comment ça se passait, d'avoir accès à tout ça.
Oui.
Est-ce que vous avez encore le projet où les gens écrivaient, faisaient un peu leur mémoire? Là?
Oui, le programme « Je me raconte ».«
Je me raconte », oui. Moi, j'avais lu, entre autres, celui de M. Gilbert Boulay, ancien maire de Péribourg. Okay. J'avais trouvé ça vraiment intéressant comme projet. De ça, vous le faites encore?
Oui, en fait, on a des animatrices là, qui accompagnent les gens durant plusieurs séances. Ça, c'est des petits cours, en fin de compte, là, en présentiel, qui se donnent. Puis les gens parlent de plusieurs étapes de leur vie, de leur cheminement, puis après ça... partir des thèmes, là, pour explorer des thèmes, pour écrire sur l'histoire de leur vie, finalement. C'est souvent des livres qu'ils font pour eux-mêmes, pour leur famille.
Ouais.
Puis c'est des grands projets qui peuvent se faire, je pense, c'est sur un an et demi à peu près. Là,
qu'ils font ça démontre quand même comment on vivait, comment c'était à d'autres époques. Moi, je me rappelle quand mon grand-père était encore en vie, j'allais le voir toutes les semaines, puis il était sourd, mais là, j'écrivais une question. Puis là, il parlait, il avait encore toute sa mémoire. Fait que là, il me racontait, tu sais, comment t'as rencontré grand-mère? Là, il partait, puis il m'en parlait pendant une heure, toute l'histoire. Mais tu sais, t'as pas ça à part dans mes souvenirs, là, tu sais. Ouais. J'aurais aimé ça pouvoir garder ça, là, tu sais, ou les enregistrer. Bref, je trouve vraiment que c'est une idée fantastique.
Oui, c'est un cadeau que les gens font à leurs enfants, à leurs petits-enfants, là, d'écrire des livres comme ça. Après ça, c'est merveilleux d'avoir ça à la maison, là.
Ouais. Tu me parlais aussi de la généalogie métisse, c'est ça?
Oui, c'est ça. On offre un service de généalogie métisse.
Qu'est-ce que c'est?
Ça, en fait, c'est pour les gens qui veulent avoir une carte de l'Alliance autochtone du Québec.
OK.
Donc, c'est un organisme à part là, qui délivre une carte qui vient avec certains avantages aussi. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent aller chercher les avantages liés à la carte de métisse. Il y a des subventions qui viennent avec ça, puis l'accessibilité à l'emploi, toutes sortes de choses.
Okay.
Donc, nous, ce qu'on fait, c'est les gens viennent nous rejoindre et ils nous disent qu'ils veulent faire faire leur dossier de métisse pour obtenir la carte. Puis, il y a un petit formulaire à remplir, c'est simple. Après ça, on fait la recherche de l'ancêtre autochtone, on va chercher les registres. Puis, une fois que le dossier est produit, c'est là qu'ils peuvent faire leur demande à l'Alliance autochtone.
Puis ça, il doit y avoir des coûts attachés à ça, j'imagine?
C'est 300 $ pour faire un dossier métisse.
Bon, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de métissage ici là, à travers les époques. Là. Fait que je pense que...
Il y en a peut-être plus qu'on pense aussi. En fait, là, toutes les personnes qui me rejoignent ou presque peuvent avoir une lignée autochtone.
J'avais vu une étude sur la génétique qui démontrait que le Québécois de souche, en moyenne, 50% du Québécois de souche a des gènes des Premières Nations. Donc, on est plus métissé qu'on pense là, à travers le temps, j'ai l'impression. Oui. Fait que je me disais qu'en cherchant...
Ouais, c'est parce qu'aussi, plus il y a de générations, plus on a de chances d'en avoir.
Absolument.
Parce que je monte, mettons, à mon grand-père ou à mon arrière-grand-père, peut-être que c'était plus difficile d'en trouver. Mais vu que, je ne sais pas pour quelle raison au juste, l'échantillon en devient plus grand, je ne sais pas, on rencontre plus de monde. Moi, je dis que plus on descend dans les générations, parce que là, on est rendu sûrement à 14 générations, là. Mm. Alors on a plus de chances d'en trouver.
On a
mais
des
seulement
qu'on
ne les trouve pas toujours là, à 5-6, comme vous dites. Là. On peut les trouver à 7, à 8, à 9, à 10, à 11, à 14 générations là, qu'on peut en trouver.
Il n'y a pas de limite pour obtenir la carte de métisse, finalement, de
l'Alliance.
Peu importe la distance.
C'est pour ça que vous autres, souvent, probablement que souvent, vous n'en trouvez. Est-ce que ça arrive que vous n'en trouvez pas?
Ça peut arriver, oui.
Mais ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver. C'est plutôt rare. Mais il y a toujours deux étapes à ce dossier-là. Il y a la recherche d'abord. Donc là, on va vraiment valider qu'il y a un ancêtre, au moins une lignée là, qu'on peut trouver avec un ancêtre autochtone. Puis si jamais il n'y avait rien du tout, on le dit au client, puis il n'y a pas de... Il y a comme deux factures différentes, deux frais différents
okay.
là, à
si
payer.
Si vous
ne
trouvez
là,
pas, ben,
ouais.
il n'y en a pas.
Il n'y a pas de frais d'auto à payer, là, sinon.
Ah ouais. OK, OK. C'est quoi les gens qui viennent, eux, ce qu'ils cherchent, c'est un lien avec leur passé, leur histoire. Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand on fait une généalogie? On veut connecter avec quoi? Avec notre famille, avec notre passé? On a quelque chose... Qu'est-ce que les gens recherchent? Je sais pas. C'est peut-être bizarre comme question.
Ben moi, je vais partir de moi. Là, mettons, je voulais savoir où mes ancêtres avaient vécu, qu'est-ce qu'ils avaient fait. On a comme un intérêt. On veut savoir. On veut savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça se fait qu'ils sont venus ici. Ou, c'est sûr qu'il y a toujours... On dit souvent, quand maintenant le lac Saint-Jean s'est ouvert, c'est parce que les terres étaient toutes prises à l'extérieur, puis il y avait les gens qui s'en allaient vers les États-Unis, alors on voulait éviter ça. Alors on a ouvert des terres par ici. Puis, mais c'est ça qu'on veut connaître, d'où ils partaient, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est le premier point de départ quand on veut savoir... qui étaient nos ancêtres ou qu'est-ce qu'on faisait. Ouais. Puis moi, j'encourage beaucoup. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Là. Parce que depuis que la Société de généalogie est ouverte, je suis quand même satisfaite de voir combien de personnes ont décidé de faire leur recherche puis en ont déposé une copie à la Société. Puis l'autre jour, je rencontrais, il y avait une personne, elle s'intéresse beaucoup à la généalogie. Puis là, je lui ai dit, « Bien, toi, tu devrais écrire l'histoire de ta famille. » Parce que je dis, « pas les autres qui vont l'écrire. »
Ouais.
Puis je le dis, là, je le dis, vraiment, les gens vont l'entendre, là. Écrivez l'histoire de votre famille. Même si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire. Non, non, vous êtes capable d'écrire. Vous le direz dans vos mots, mais vous direz quelque chose sur votre ancêtre. C'est important. Puis, j'encourage les gens, quand ils ont fait leur lignée directe, comme ça, bon, il y a toujours, à un moment donné, et comme ici, là, mettons, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Héberville, bon. Alors, le premier qui arrive à Héberville, là, okay. C'est lui. Ben lui, il s'est marié à Cap-Saint-Ignace, mais je sais qu'il est venu à Héberville. Bon, lui, il s'appelle Ferdinand Daniel Laprise. Il a marié Olive Cloutier. Il l'a marié en 1859 à Héberville. Bien là, c'est important de faire l'histoire de lui parce que lui, là, il est dans... Bien, c'était son ancien, lui, qui est venu le premier. Son père est venu avec ses enfants. Alors lui, là, il s'est marié à Cap-Saint-Ignace, mais il est venu à Héberville. C'est important d'écrire l'histoire parce que il s'est emmené ici, lui-là. Là. Il est parti de Cap-Saint-Ignace, puis il s'est emmené ici, puis il a fondé... Bien, il n'a pas fondé, mais bien, il était au début, lui, Antoine Laprise, Daniel, avec Olivier de Guimont, là, il était dans les premiers d'arrivant à Héberville, parce que le premier baptême qu'il y a eu à Héberville, c'est Olivier de Guimont qui est mort.
Ah, OK.
Fait qu'elle est là. Ouais, avec, puis je crois qu'il y avait des liens proches avec le curé Hébert.
Okay.
Parce que, tu sais, il l'a choisi. Il l'a choisi, là, elle. Là. Il tenait les premiers. Alors, tout le monde est capable de faire sa recherche généalogique. L'important, c'est qu'il parte d'un point de départ. Là. Maintenant, je parle de moi ou je parle de ma mère ou de mon grand-père, puis je fais la lignée directe. On vient à la société, il y a quelqu'un qui va vous diriger, qui va vous donner les sites aussi qui sont gratuits sur Internet. On va vous... Puis quand des fois, vous réussissez à faire votre lignée dans la journée que vous êtes là, bien après ça, il faut étendre, il faut aller. Par exemple, c'est comme ça, là, c'est un cahier d'exercice. Là. Dans ça, on peut monter 6 générations,
okay.
Du côté du père puis du côté de la mère. Puis on écrit souvent, là, lui, il a mis juste les mariages là-dedans. Mais je pense qu'il y a aussi des fiches familiales. Maintenant, ici, comme ici, c'est marqué Louis Labrec avec Marie Asselin. Mais Louis Labrec avec Marie Asselin, ses enfants, le mariage, puis tout ça. Ça, c'est des petits cahiers qu'on a, qu'on peut, qu'on achète à la société, Puis ça permet vraiment d'avoir une première ébauche.
De commencer, là. Des fois, on ne sait juste pas par où commencer.
Oui, c'est ça. Peut nous aider. C'est ça. Mais c'est important de le faire. Puis, il y a aussi celui-là, ce cahier-là. Lui, c'est quand on veut faire cet éventail-là.
OK.
On prend un cahier.
C'est quoi l'avantage de cet éventail-là? C'est qu'il est plus complet?
Moi, je dirais que. C'est pas obligé. Mais quand on commence à faire de la généalogie, moi, c'est la première chose que j'ai faite.
Ah oui.
J'ai fait du côté Labrec, du côté Boisvert, du côté Robert. On a le goût. On a le goût de le faire. À ce moment-là, c'est ce cahier-là que ça prend.
OK.
Puis c'est parce que le cahier aussi, là, j'ai pris un cahier que moi, j'ai commencé. Puis tu vois, on laisse toujours une feuille vierge en arrière parce que il y a des fois, il y a des notes à prendre en arrière. Puis il ne faut pas les perdre, les notes, parce que des fois, regarde, comme ça, c'est important. Ouais. Il y en a qui ont eu deux mariages, trois mariages, des affaires comme ça. Alors là, je mets les notes en arrière. Puis dans ce cahier-là, c'est pareil, un peu comme lui, il remonte six générations avec les fiches de famille. Lui, je remonte, je fais ça. Mais je monte, il y a 10 générations. Maintenant, on est rendu plus loin. Là. Mais il y a 10 générations, mais il y a 6 générations aussi de famille avec les fiches familiales. Il y en a aussi là-dedans, là, comme ça. Les fiches familiales.
Okay.
À chaque génération. Mettons, comme lui, c'était Rosanna Boisvert. Bien, Rosanna Boisvert, son père, sa mère. Là je ne l'ai pas complété, mais là, j'aurais dû mettre les enfants. Je ne les ai pas mis. Puis après ça, Pierre Boisvert avec Délima Tessier. Bien, là, tous les enfants. La date de naissance, leur mariage. Après ça, là, après Pierre Boisvert, bien là, c'était celui-là qui s'est marié aux États-Unis. Là. Non, c'est eux autres qui sont mariés aux États-Unis. C'était Louis Hampshire. À Suncook, à Louis Hampshire.
Puis ça, à la fin de tout ça, quand on a rempli ça, c'est ça qui va nous amener à avoir un beau diagramme. Là,
Comme ça. Oui, c'est ça.
Puis ça, est-ce que vous en faites imprimer? T'sais, une fois que c'est fini, là, on veut, je sais pas, on veut l'encadrer, on veut garder ça.
Oui, on peut acheter un grand tableau, on l'a à la société.
Okay.
On achète un grand tableau, puis on l'écrit à la main. Mais maintenant, là, il y a des logiciels, maintenant, c'est comme Eredis, ou peut-être même Brothers Keeper, mais moi, je n'ai jamais exploré ce côté-là. Maintenant, il y a des logiciels qui vont le sortir tout bien écrit. Là. On va le sortir là, avec le logiciel. Maintenant, on est capable de le faire avec le logiciel.
Wow. Là, tu as amené des livres. Je suis un peu curieux. Tu peux-tu nous les présenter?
Oui, de mon côté. Ici, bien, en fait, c'est quand on fait un dossier de généalogie métisse. Nous, c'est un peu différent. Ça, c'est des livres de généalogie générale. Il y a des gens qui font des recherches incroyables. Là, c'est comme ça. Ça, c'est Mme Jacqueline Boulanger. Oui, c'est la famille. Bien, il y a plusieurs familles là-dedans. Là. Il y a les boulangers, Pinchot, Trottier, il y en a plusieurs.
C'est parce que quand on dit comme moi, là, mon père, c'est Labrec, ma mère, c'est Robert. Mon grand-père, c'est Pierre Labrec à Bringuet-Fournier. Alors, comprends-tu, ça fait Labrec, Robert, Fournier, puis du côté des Boisverts, c'est Délima Tessier. Bien, c'est Tessier.
OK.
Alors,
c'est vraiment une passion, là, un passe-temps, la généalogie.
Wow.
Les gens sont passionnés là, quand ils commencent. Pour la généalogie métisse, c'est sûr que c'est un peu différent parce qu'il faut savoir reconnaître c'est qui les ancêtres autochtones.
Comment on fait?
Il faut avoir l'expertise.
OK. C'est
pour ça que les gens font affaire à nos services là, dans ces cas-là, parce que sinon, à moins vraiment de faire une recherche extensive dans toute la généalogie, faire sa roue de pain, puis après ça, aller voir lesquels dans les registres sont identifiés autochtones, ben là, c'est plus vite et plus efficace là, d'y aller avec quelqu'un qui se connaît, qui sait reconnaître les noms de familles autochtones, finalement les noms autochtones, puis aller vérifier dans les registres, les lire aussi, là, pour retracer les ancêtres autochtones. Donc, pour un dossier, nous, en fait, je voulais juste montrer un petit peu là, comment on faisait ça. Là. C'est sûr, là, j'ai pas mis de nom là, pour aujourd'hui,
correct,
là, pour cacher pour la confidentialité. Mais par exemple, Cécile Kaoraté, c'est une ancêtre montagnaise.
Okay.
Donc, il y en a plusieurs des ancêtres, mais c'en est une. Puis, on voit ici, la personne avait 10 générations de distance avec l'ancêtre autochtone.
Okay.
Ça peut être plus près, ça peut être plus loin. Donc, ça va de entre 8 et 16 générations, je dirais. Là. C'est assez aléatoire. Là, c'est sûr que tout est fiable. Là. C'est vraiment la distance exacte avec l'ancêtre. Puis, on y va avec les mariages. Puis, on passe pas seulement du côté paternel. Là. On va du côté de la mère, du père, de la mère, du père. On va de tous les sens là, pour trouver l'ancêtre autochtone. Donc, il n'y a pas de règles exactes.
En réalité, c'est un petit peu ça qu'ils font, là.
Oui, okay. C'est ça, en fait. Là. Mais en sachant, c'est moins long que ça, un peu, même s'il y a quand même l'exploration.
Tu cherches quelque chose de précis aussi.
Oui, c'est ça. Je sais reconnaître à peu près les noms de famille qui peuvent mener à un ancêtre autochtone, finalement. Okay.
Ouais, ouais. Wow. Comme par exemple les Blackburn, ils remontent presque toutes à Cécile Carroll.
Oui, par exemple, les Blackburn. Ouais.
Alors, les autres, c'est ça, ils savent, telle famille, tel nom, ils viennent par savoir à laquelle ils remontent.
Oui. Puis là, en fait, le client doit nous fournir son certificat de naissance. Okay. Puis le certificat de naissance et de mariage de leurs parents aussi, c'est parce que c'est pas accessible, c'est encore privé de nos jours, ces documents-là. On peut pas les trouver sur Internet. Il faut qu'ils aillent les chercher à l'état civil sur le site du gouvernement du Québec. Mais c'est eux-mêmes seulement qui peuvent faire la demande pour ces certificats-là.
Même pour nos parents. Moi, si je voulais avoir le certificat de mariage de mes parents, moi, j'ai le droit de le demander.
Oui, c'est ça. Nous, on ne peut pas le faire, c'est encore du domaine privé, là, jusqu'aux années 40, là, à peu près. Là.
OK.
Puis même encore, surtout pour les gens qui sont encore vivants, finalement.
Ben oui, je comprends.
Puis après ça, on va chercher... ça, c'est plus une source complémentaire, là, si on veut, là, mais la première chose qu'on va chercher, là, c'est sur les sites web payants de généalogie, on retrouve des fiches comme ça. Puis là, on va cliquer sur le registre, puis on va chercher vraiment... je vais essayer d'en trouver une. Ici, des registres comme ça, là. Des fois, c'est difficile à lire.
C'est ça, faut décoder, là.
Oui, c'est ça, faut décoder. Mais nous, on est rendu habitué quand même à les lire. Ouais. Mais,
parce que la formulation se ressemble toujours.
OK.
Oui. On va voir les noms. Puis, à l'ancêtre autochtone, il faut vraiment que ça soit écrit la nation de l'ancêtre ou que l'ancêtre se soit marié sur une réserve amérindienne.
OK.
Donc, c'est pour ça que ça remonte pas toujours aussi près qu'on peut l'espérer. Parce que dans le registre, il faut vraiment qu'il y ait ces détails-là de bien écrits, que le curé les a écrits. Donc, il y a souvent des petites légendes de famille, là, de gens qui pensent avoir une grand-mère autochtone très près, là, puis qui pensent pouvoir obtenir les services du gouvernement du Canada, le Service autochtone Canada. Par contre, c'est un peu plus compliqué parfois que ça. Ça nous donne souvent un indice d'où se situe l'ancêtre autochtone, mais souvent un petit peu plus haut, par contre, là, dans les générations.
Okay.
Puis, on va quand même explorer très près, là, dans les ancêtres plus près, grands-parents, arrière-grands-parents, juste pour voir si il n'y aurait pas vraiment là, eu un mariage ou une naissance sur une réserve autochtone ou quelque chose comme ça. Mais on va au moins valider là, cette information-là. Mais souvent, c'est ça, ça se retrouve plus haut là, dans la lignée. Mais on peut quand même avoir la carte de métisse.
Est-ce qu'il y en a des gens, des fois, qui vous envoient sur des fausses pistes, mais sans être malhonnête, mais ils pensent que... Puis ils vous disent « Ouais, mais moi... » Puis là, en faisant des recherches, ça ne fonctionne pas. Là, puis vous découvrez des choses, vous leur annoncez des secrets de leur famille, je ne sais pas. Ça arrive-tu, ça?
Ben là, j'en ai pas à l'idée.
Ouais.
Il y en a qui peuvent nous envoyer des fois sur des fausses pistes, ça je l'ai vu. Là, mais...
Oui.
Parce que, tu sais, mettons, il disait que sa mère s'appelait Éléonore Harvey alors qu'elle s'appelait Éléonore Tremblay. Là.
Ah, OK.
Mais, tu sais, on la trouve. Oui,
c'est
ça. On voit à un moment donné qu'il y a une erreur, autrement dit. Là. Pas
on voit des fois des liens de famille entre les pères et mères, là. Choses comme ça, là. Sans être cousins, mais...
Ouais, de loin, ils peuvent
être... des lignées qui se rejoignent à un moment ou à un autre, puis ça arrive souvent, là.
C'est fantastique de pouvoir explorer le passé comme ça, là. Comment je pourrais dire? Mais pas dans l'histoire avec un grand H, mais dans la petite histoire, dans la vie des gens, dans le quotidien. C'est là où vous êtes aussi, là, tu sais, de voir, ben lui, il habitait à telle place, il avait probablement tel métier. Ça, c'est toutes des choses que vous êtes capable de trouver un peu.
Oui, dans les registres, on voit souvent, les métiers sont souvent écrits. Là.
Ils écrivent de moins en moins, par exemple, c'est malheureux.
Ouais.
Oui. Et les métiers, oui, parce que souvent, oui, c'est marqué, là,
cordonnier,
marin.
Ouais. Ça, c'est agréable de trouver ça.
Absolument.
Parce que tu vois que ton ancêtre, il y a un métier. Ben, surtout quand c'est un métier. En général, c'est cultivateur. Là,
oui.
Mais quand on en trouve de différents, ben, on dit c'est quoi? C'est différent. Là, ben, marchand, ben,
Oui, oui, puis ça va dépendre. T'sais, moi, mon grand-père, entre autres, il était journalier. Ça, pour moi, ça voulait rien dire. Ouais. Mais là, j'ai appris qu'il était journalier chez les Patrapistes. Il a été pour l'armée du Canada. Il était là, okay. Finalement, là, sa vie devenait bien plus fantastique que juste être journalier.
Journalier, en réalité, il pouvait faire plusieurs choses.
Exactement, c'est ça. Il faisait de la conciergerie, de la bouffe, il faisait plein d'affaires.
Ouais, ouais.
Mais c'est fascinant parce que ça donne une perspective aussi sur d'où on vient. Ça nous permet de comprendre qui on est, j'ai l'impression.
Oui, oui. Ben, c'est pour ça que les gens qui décident de faire de la généalogie, ils peuvent trouver des choses intéressantes. C'est pour ça que je fais appel encore les gens qui ont le goût, qui n'hésitent pas à venir à la société. Ben, maintenant, on dit c'est toujours le mardi, mais admettons qu'on demande, ils peuvent téléphoner pour dire, moi, mardi, je vais être présente, je vais être là. Il va y avoir une personne ressource qui va être là pour la guider. Après ça, la personne, quand elle est membre, elle peut venir à tous les jours si elle veut. Là.
Ouais.
Elle peut avoir accès à tout, comme moi, je paye chez nous souvent parce que je fais un travail, encore un gros travail. J'avais pas le temps de me déplacer à chaque fois. Là. Alors, je me le paye, mais quelqu'un qui reste pas loin puis qui veut faire un travail, ben il peut venir à tous les jours. La société, quand il est membre, il peut venir tous les jours. Ça ne coûte rien. Là.
Okay. Moi, là, mettons, là, je ne suis pas disponible les mardis, mais je peux-tu vous appeler pour regarder qu'on puisse se rencontrer une autre journée que le mardi?
Oui.
Puis comme moi, parce que moi, je suis natif de Sainte-Marguerite-Marie, mais aujourd'hui, j'habite à Saint-Gédéon. Parce que ma profession m'amène là. Est-ce que je peux quand même m'inscrire à la société de Marie-Chapelaine?
Oui, oui, oui.
Parce que je suis natif du coin.
Oui, on a des gens qui viennent de la Colombie-Britannique.
Oui, OK. Inscrits on n'est pas réservé aux gens du secteur. Non.
Oui, on reçoit la revue aussi, là, même si on est à l'extérieur.
OK.
Oui.
Moi, je t'ai inscrit à ce Québec, après ça, je t'ai inscrit à Chicoutimi.
OK. Il faut juste prendre le temps de s'inscrire puis de regarder ça. C'est vraiment fantastique. Écoutez, c'est déjà terminé. Merci beaucoup. Je vous rappelle, Huguette Labrec, bénévole à la Société d'histoire et de généalogie Marie-Chapdelaine et généalogiste de filiation agréée. Merci beaucoup. Et Frédéric Fradette, archiviste à la Société d'histoire et de généalogie Marie-Chapdelaine. J'ai toujours de la misère, j'ai peur de qu'il me manque des mots. Et merci beaucoup, c'était très éclairant, ça me donne le goût. Je vous en parle tout de suite après. Là. J'ai goût de faire
plaisir.
Ça. Ça fait longtemps que je rêve à ça, fait qu'on essaie de faire quelque chose. Merci aussi à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Scott. Bonne semaine! Thank you.